إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous fasse miséricorde. Comme cela a été annoncé, nous allons commencer dès aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'étude d'un nouvel épître dans le Tawhid, qui n'est d'autre que le livre « La pureté du Tawhid bénéfique » de l'imam Ahmad al-Maqrizi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons tout d'abord parler brièvement de l'auteur, car il n'est pas très connu du public francophone, malgré qu'il soit considéré comme un des imams de cette communauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Son prénom est Ahmed, fils de Ali, fils de Abdul Qadir, fils de Muhammad, fils de Ibrahim. Il est né dans la ville du Caire en Égypte, l'an 776 de l'Égir. Néanmoins, sa famille vient d'un quartier appelé El-Maqariza, situé au Liban, d'où le fait qu'il soit connu sous le nom d'El-Maqrizi. Car à la base, il est originaire de là-bas. Et conformément à la voie des pieux prédécesseurs, l'imam al-Maqrizi, rahimahullah, a beaucoup étudié la science et a fait des efforts mémorables dans la demande de science. Il a passé son temps à étudier et à apprendre la science des savants. Il a étudié auprès de certains imams et de grands savants. Certains ont dit que le nombre de ces grands enseignants atteignait 600. Parmi les plus connus, on retrouve Al-Haythami, Al-Tanouri et Zainuddin Al-Iraqi. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Également, il a appris la science de beaucoup d'autres savants, parmi ceux de la région du Cham et de la Mecque. Et certains d'entre eux lui ont même donné une ijaza. Et ceci, chers auditeurs, nous rappelle à quel point les savants d'antan étaient motivés dans la demande de science. Et ce genre d'informations doit motiver l'étudiant en science et le pousser à toujours faire plus. Les pieux prédécesseurs avaient beaucoup d'ambition dans la science. Ibn Hajar al-Asqalani mentionne dans son livre intitulé « At-Taqrib wa At-Tahdhib » d'après son camarade Ahmed Ibn Salama, il dit une assise de révision de hadith fut organisée pour l'imam Muslim rahimahullah. Donc à l'époque, lorsque quelqu'un était célèbre dans le hadith, on organisait une assise où les gens testaient ses connaissances dans la science du hadith. Et lors de cette assise, on avait pour habitude de lui citer par exemple la chaîne de transmission d'un hadith. Et il devait mentionner le hadith en question. Ou bien, on allait lui citer le nom d'un hadith. Et il devait citer la chaîne de transmission de ce hadith. Et lors de cette assise, on le testa sur un hadith qu'il ignorait. Alors que c'était l'un des plus grands imams de son époque, rahimahullah. Et donc il rentra chez lui très déçu, comme cela était l'habitude des grands savants du hadith. Lorsqu'on les interrogeait sur un hadith, et qu'ils n'arrivaient pas à répondre, ils étaient déçus. Par conséquent, lorsqu'il rentra chez lui, il décida de passer la nuit à chercher ce hadith, subhanallah. Aujourd'hui, certains passent leur nuit sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres, qu'Allah nous en préserve, passent leur nuit dans des futilités, alors que lui passa sa nuit à chercher un seul hadith. Et cette nuit-là, on lui offrit un panier de dattes. Et il se mit à manger de ce panier de dattes. Et en même temps, il chercha ce hadith jusqu'à ce qu'il termina ce panier de dattes. Et plus tard, il trouva le hadith. Donc il mangea un panier de dattes entier en une seule nuit. Et certains ont dit que cela fut la cause de sa mort. Subhanallah. Même à la fin de leur vie, les pieux prédécesseurs étaient motivés dans la demande de science. On mentionna une faïda à l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah. Alors qu'il était sur son lit de mort, et malgré qu'il était mal en point, il demanda qu'on lui ramène de quoi écrire pour pouvoir la noter. C'est alors qu'il lui fit dire « Oh imam, même maintenant ?» Et il répondit « Il ne convient pas que l'étudiant en science délaisse l'apprentissage de la science jusqu'à sa mort. » Et certains parmi les pieux prédécesseurs mémorisaient jusqu'à leur dernier souffle. Ibn Malik, rahimahullah, l'un des grands savants de la grammaire, prêtait tellement une grande attention à la science qu'il mémorisa 7 vers de poésie le jour de sa mort, rahimahullah. Et même lorsqu'il tombait malade, ils étudiaient. Et il était impossible pour eux de délaisser la science, même pour cause de maladie. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lui rapporta un jour qu'il tomba malade. Et le médecin lui dit « Le fait que tu lises des livres aggrave ta maladie. » C'est-à-dire concrètement que le médecin demanda à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, de prendre des vacances et de délaisser la lecture. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit que cette chose était impossible et qu'il ne pouvait pas répondre favorablement à cette demande. Ils avaient tellement de grandes ambitions dans la demande de science qu'il n'hésitait pas à passer de longues années dans l'écriture d'un livre. Ibn Jarir, rahimahullah, dit un jour à certains de ses étudiants: n'êtes-vous pas motivé pour écrire un livre dans le tafsir? Ils répondirent: quelle serait sa quantité? Et Ibn Jarir, rahimahullah, répondit: 30 000 pages. Les élèves s'exclamèrent et dirent: ceci est une chose pour laquelle nous passerons notre vie sans que cela ne soit suffisant. Et Ibn Jarir, rahimahullah, écrit plus tard son livre dans le tafsir connu, intitulé Tafsir Ibn Jarir, contenant 3000 pages, qu'il écrivit en 7 ans. Et un jour, il dit encore à certains de ses étudiants: n'êtes-vous pas motivé pour écrire un livre dans l'épopée de l'islam, de Adam alayhi salam jusqu'à maintenant? Et les élèves répondirent: quelle serait sa quantité? Et Ibn Jarir répondit: 30 000 pages. Et les élèves dirent une nouvelle fois: ceci est une chose pour laquelle nous passerons notre vie sans que cela ne soit suffisant. Et Ibn Jarir, rahimahullah, répondit: Wallahul Musta'an, l'ambition est morte. Et il écrivit alors un livre dans ce domaine, contenant 3000 pages, rahimahullah. Tellement certains ont atteint un degré élevé dans la science, les gens se mirent à douter s'ils n'avaient pas bu ou manger quelque chose de spécial. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, fut un grand savant et il dépassa les gens de loin dans la science, jusqu'à ce que certains pensaient qu'il avait bu ou mangé quelque chose pour arriver à ce niveau. Car d'après eux, il était impossible d'arriver à ce niveau. Et l'information se propagea. Et un élève décida de lui poser la question directement. Et lorsqu'il fut questionné à ce sujet, il répondit, rahimahullah, je ne connais rien de tout cela en dehors de la continuité et de la motivation. Et même la pauvreté ne les a pas empêchés d'étudier la science et de faire de longs voyages dans la quête du savoir. Beaucoup d'entre eux étaient pauvres, mais ont patienté face à la pauvreté et faisaient tout pour arriver à leur but. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, était pauvre. Néanmoins, il faisait tout pour voyager en quête de science. Lorsqu'il voulait voyager de l'Irak à Médine ou de Médine jusqu'au Yémen, il proposait aux propriétaires des caravanes de travailler pour eux tout au long du voyage, à condition qu'ils l'emmènent à destination ainsi que ses livres. Et à leur époque, les voyages étaient très longs et très fatigants. Et certains pieux prédécesseurs étaient parfois contraints de manger des choses qu'aucun d'entre nous serait capable de manger à notre époque. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit: un jour, je partis voir Adam ibn Abi Iyas, rahimahullah, pour prendre de lui le hadith. Et Adam ibn Abi Iyas faisait partie de ses grands enseignants. Il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est alors que mes provisions étaient terminées. Donc l'imam, rahimahullah, l'imam al-Bukhari, a voyagé en quête de science et n'avait plus de provisions. À votre avis, qu'est-ce que l'imam al-Bukhari a fait? A-t-il demandé aux gens de l'aide? en sachant qu'il était très connu. Et à l'époque, les gens étaient prêts à tout pour aider les savants. La réponse, Ikhwani fillah, est que cela n'était pas l'habitude des pieux prédécesseurs. Par conséquent, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, se mit à manger de l'herbe pendant 3 jours, sans que personne s'en rende compte, subhanallah. En plus du fait qu'il ait mangé une chose que beaucoup d'entre nous seraient incapables de manger, il n'a pas exposé sa situation de telle sorte que quelqu'un puisse se douter de la difficulté dans laquelle il se trouvait. Et cela était connu des pieux prédécesseurs. Au contraire de certaines personnes à notre époque, qui, lorsqu'ils sont en difficulté, vont tout faire pour montrer aux gens que ça ne va pas. Et donc, voici la voie de nos pieux prédécesseurs dans la science, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ils faisaient beaucoup d'efforts et patientaient dans la demande de science. Et il n'y a pas de doute que celui qui est motivé, fait des efforts et patiente, obtiendra la science profitable, incha'Allah ta'ala, même s'il trouve de la difficulté dans ses débuts. Qu'il garde toujours à l'esprit que ce qui est difficile devient un jour ou l'autre plus facile. Et lorsque ça devient facile, on finit même par oublier à quel point ce fut difficile. Et ceci me rappelle une scène que nous avions l'habitude de voir au Yémen. Lorsque nous étions au Yémen, les élèves avaient pour habitude de mémoriser et réviser le Coran après la prière du Fajr. Certains révisaient assis dans la mosquée, tandis que d'autres marchaient dans la mosquée tout en récitant. Et ce qui a attiré mon attention, c'est le comportement de certains enfants. Certains d'entre eux, qu'Allah les préserve, faisaient le tour des gens de la mosquée pour trouver une personne à qui réciter le Coran. Ils avaient pour habitude de marcher lentement et regarder les élèves qui lisaient le Coran, dans le but de croiser le regard d'un d'entre eux pour lui faire un signe de la main ou lui faire comprendre qu'il veut lui réciter un peu de Coran. Et quand il ne croisait le regard de personne, il n'hésitait pas à aller s'asseoir directement devant l'un de ses étudiants, avec un regard attendrissant pour qu'il accepte de l'écouter réciter un peu de Coran et pour qu'il lui corrige un peu ses fautes. Mais le plus étonnant dans tout ça est qu'il ne faisait pas ça une fois. Il pouvait faire ça pendant un long moment. Il profitait de plusieurs étudiants en quelque temps. Et certains de ses enfants ont persévéré dans cette voie et ont fini par avoir un bon niveau dans le Coran. Et certains ont même mémorisé tout le Coran, subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite et les préserve. Revenons à la biographie de l'auteur Ahmad al-Maqrizi, rahmahullah. Donc l'imam al-Maqrizi a commencé par suivre le madhhab de l'imam Abu Hanifa, car il fut influencé par son grand-père, Ibn Sa'i'a. Néanmoins, il se mit à suivre le madhhab de l'imam Shafi'i à ses 20 ans, malgré que dans sa famille, certains suivaient le madhhab de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quant à sa croyance, il était sur la croyance des gens de la Sunna. Et il a vécu à une époque où les sectes majoritaires étaient Al-Asha'ira, As-Soufiya, c'est-à-dire les Soufis, et ce qu'on appelle Ahlul Kalam. Mais on retrouvait à son époque d'autres sectes, telles que Al-Jahmiyya, telles que la secte qu'on appelle Al-Jahmiyya, les chiites et également Al-Mu'tazila. Néanmoins, les sectes majoritaires étaient celles qui furent mentionnées précédemment. L'imam Al-Maqrizi, rahimahullah, avait pour habitude de se désavouer des innovations et de leurs adeptes. Et dans cet épître, il va parler des déviances de certaines sectes, même si parfois il ne les cite pas directement, comme c'est le cas pour la secte d'Al-Asha'ira. Également, l'imam Al-Maqrizi fut très influencé par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde. De ce fait, il a beaucoup cité leurs paroles dans cet épître, mais il n'a pas forcément mentionné leur nom. En résumé, l'auteur était sur la croyance des gens de la Sunna, notamment dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En témoigne sa parole, la base de toute innovation en religion est l'éloignement des paroles des pieux prédécesseurs et le fait d'avoir dévié de la croyance des premières générations de l'islam. Il décéda le jeudi 16 du mois de Ramadan, l'an 845 de l'Hégire en Égypte, et fut enterré le lendemain après la prière du Jumu'ah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc après avoir fait une brève biographie de l'auteur, rahimahullah, nous allons lire et commenter l'introduction de cet épître qui fut écrit par notre cheikh Yassine al-Adani, rahimahullah. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Louange à Allah. Nous le louons, lui demandons l'aide et implorons son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne que nulle divinité n'a droit à l'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant musulman. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a répandu sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous sollicitez les uns les autres. Et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Puis il dit, rahmahullah, les versets que nous avons cités constituent ce qu'on appelle le sermon du besoin. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les récitait en introduction de ses exhortations, de ses sermons et autres. Concernant ce qu'on appelle le sermon du besoin, les savants sont d'avis que c'est une sunna et qu'il convient de le prononcer avant toute parole importante. Ce sermon est certes immense et renferme beaucoup de profits et d'enseignements. Néanmoins, seuls les doués de raison et ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala tireront des leçons et des enseignements de ce sermon, car ce sont eux qui sont plus à même d'en tirer des leçons et une exhortation. Quant aux doués de raison, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de sourate Yusuf: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Il est dans les récits des messagers des enseignements pour ceux qui raisonnent. Et il dit, après avoir mentionné l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon concernant ceux qui craignent, إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Il est en cela une exhortation pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sermon est tellement immense qu'il fut la cause de la conversion d'un peuple tout entier. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, arriva à la Mecque, c'est-à-dire avant sa conversion. Et il pratiquait la ruqya. Il entendit des insensés de la Mecque dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était possédé. Et il se dit, si je vois cet homme, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse par ma cause. Il rencontra alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: « Ô Mohammed, je pratique la ruqya et Allah guérit par mon biais celui qu'il veut. En as-tu besoin ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: « Louange à Allah, nous le louons et lui demandons l'aide. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Je témoigne que nulle divinité n'a droit à l'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. » Dhimad demanda: « Répète ces paroles. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lui répéta à 3 reprises. Puis Dhimad déclara: « J'ai eu l'occasion d'entendre des propos de devins, de sorciers et de poètes, mais je n'ai jamais entendu de paroles semblables aux tiennes. Elles atteignent certes la profondeur de la mer. Donne-moi ta main, afin que je prête allégeance de suivre l'islam. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: « Est-ce au nom de ton peuple ?» Il répliqua: « C'est aussi en leur nom. » Par conséquent, il convient de donner une grande importance à ce sermon et de commencer les paroles importantes par celui-ci. Ensuite, Cheikh Yassine rahimahullah mentionne: ces versets donnent de l'importance à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordonne. Donc le sermon du besoin contient 3 versets. Et lorsqu'on prête attention à ces versets, on remarque qu'ils ont une particularité. Et cette particularité est qu'ils commencent tous par l'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remarque également que cet ordre est adressé de manière spécifique aux croyants dans 2 de ces 3 versets. Et ceci a de quoi interroger, car le croyant a forcément une part de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte l'empêche de commettre certains péchés, tout comme elle le pousse à faire de bonnes actions. Dans ce cas-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ordonne-t-il aux croyants de le craindre ? Avant de répondre à cette question, il faut tout d'abord savoir un point important, qui est que dans la langue arabe, lorsque tu donnes un ordre à quelqu'un, cela peut avoir plusieurs sens. Le premier sens est lorsque tu lui ordonnes une chose qu'il n'est pas en train de faire. Dans ce cas, l'ordre aura pour but qu'il accomplisse la chose ordonnée. Par exemple, tu dis à quelqu'un qui est assis « Qoum », c'est-à-dire « Lève-toi ». Donc ici, tu lui ordonnes de faire quelque chose qu'il ne fait pas à la base. Le deuxième sens est lorsque tu ordonnes à quelqu'un de faire quelque chose qu'il fait déjà. Dans ce cas, l'ordre aura le sens de continuer et de perdurer dans cette chose. Et ce sens est fréquent dans le Coran. En effet, dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de le craindre ou de croire en lui, malgré qu'ils le craignent déjà et qu'ils croient déjà en lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 136 de sourate An-Nisa, Ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl. Ô vous qui croyez. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Ô vous qui croyez, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé à son messager et en tout livre qu'il a révélé auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, dans le premier verset de sourate les coalisés, « Ya ayyuha al-Nabiyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin »« Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas ni aux mécréants ni aux hypocrites. » Et il y a dans ce procédé une exhortation et des leçons à tirer. Et cette exhortation est que le croyant doit sans cesse faire les causes pour augmenter sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi ainsi que sa connaissance. C'est pour cela que l'éminent savant, Ash-Shaykh Salih al-Fawzan, Hafizahullah, dit dans le tafsir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl. Ô vous qui croyez, croyez en Allah, à son messager et en tout livre qu'il a révélé auparavant. Il dit qu'Allah le préserve. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de croire, c'est-à-dire qu'ils persévèrent dans la foi et qu'ils augmentent leur foi par les bonnes actions. Fin de citation. Et ce principe est très important, car de nos jours, certains ont délaissé les causes pour augmenter leur foi, sous prétexte qu'ils sont croyants et qu'ils sont nés dans l'islam. Et on retrouve parfois ce phénomène chez certains salafis. Certains vont te dire, Alhamdoulillah, je connais la salafiyya, je connais les savants de la sunna, je sais qu'il faut suivre la voie des pieux prédécesseurs. Néanmoins, il ne va pas faire d'effort dans l'apprentissage et va souvent se reposer sur ses lauriers. Il ne va pas faire d'œuvres surérogatoires car il a la conviction que ses œuvres obligatoires suffiront. Et ceci est une erreur manifeste car le croyant doit toujours faire plus pour se rapprocher davantage de son Seigneur. Il doit toujours étudier sa religion pour mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion. Il doit multiplier les bonnes actions pour que sa foi augmente et pour avoir le plus de hasanat dans l'au-delà. Il doit toujours s'écarter des péchés pour en être préservé. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui prétendent de nos jours être à l'abri finissent par tomber dans des troubles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.